Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour au 9 en ce mercredi 9 octobre 2024. On accueille en studio notre invité du jour pour parler de la revue du Climatoscope. C'est le directeur adjoint au professeur au département de communication de l'Université de Sherbrooke et sur le comité éditorial, Olivier Champagne-Poirier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, parlons-en de cette revue-là. C'est le 6e numéro qui est publié et qui sera lancé demain matin. En quoi ça consiste, le Climatoscope?
Bien, le Climatoscope, c'est un groupe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui s'intéresse à la démocratisation des sciences des changements climatiques, puis chaque année publie une revue, donc la revue Climatoscope. Cette année, tu l'as mentionné, le sixième numéro porte sur il y a un dossier thématique sur les limites planétaires. Donc, dans le numéro, on retrouve 23 articles qui sont issus de recherches originales, mais qui sont écrits dans un format vulgarisé. Donc, le but, c'est de pouvoir engager le dialogue auprès de publics intéressés, mais non experts. Donc, des personnes pour qui lire l'article tel que publié dans une grande revue savante, par exemple, ça serait peut-être un peu opaque, mais au Climatoscope, on veut rendre accessible cette connaissance-là.
Bien, faites mention de réduire le fossé entre la science et le grand public. Quels seraient les défis qu'on rencontre justement pour bien vulgariser et que ça soit pas compréhensible, mais que ça soit accessible, je devrais plutôt dire?
Bien, il y en a plusieurs. Premièrement, les sciences des changements climatiques, c'est très complexe. On fait face à des phénomènes qui sont très complexes, qui prennent des formes très hétérogènes. Puis la recherche qui porte sur ces phénomènes-là, elle est tout aussi complexe. Donc, pour pouvoir la comprendre, souvent, ça prend un certain bagage. Puis, c'est pas tout le monde qui font de la recherche qui sont spécialisés en communication climatique, par exemple. Donc, c'est pas tout le monde qui ont une grande facilité à rendre cette connaissance très complexe-là accessible. Donc, premièrement, c'est un défi, tu sais, de franchir cette espèce de barrière-là entre comment on communique dans le milieu scientifique versus comment on communique avec les décideurs publics, avec le public général. Je dirais qu'un des grands défis liés à cette communication-là, c'est le sentiment de proximité puis le sentiment de l'internalisation par les publics, donc de faire en sorte que les personnes vont comprendre en quoi ça s'applique à moi, en quoi ça affecte ma réalité, puis qu'est-ce que je fais avec ça. Et puis ça, au Climatoscope, on essaye d'inciter les auteurs à mettre de l'avant ce qu'on appelle le « so what », de dire « qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats-là? En quoi c'est pertinent pour les personnes lectrices? Puis comment ça peut mener à l'action climatique? »
Sixième numéro, comme je le disais, revue annuelle. Comment sont choisies les thématiques, entre autres pour ce numéro-là, qui sort,
Qui est maintenant disponible en ligne. On fait le lancement officiel là, demain au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. On pourra en parler tantôt. Comment on fait la sélection? Premièrement, on est très content. On est une revue qui est assez populaire sur le plan des personnes autrices. Là, on reçoit beaucoup de textes. C'est l'odieux du comité scientifique de devoir déterminer quels sont les 23 textes qui vont se frayer un chemin jusqu'à la revue. Pour ce qui est des dossiers thématiques, ça aussi, c'est une décision de l'équipe du Climatoscope qui est généralement basée sur les enjeux d'actualité. On veut que ce qu'on publie soit pertinent puis offre un regard sur notre actualité, sur les enjeux actuels des populations, des sociétés. Fait que ça, il y a une part de qu'est-ce que le comité scientifique reconnaît comme particulièrement pertinent. Ça oriente les dossiers thématiques, mais après ça, les numéros, les articles hors dossier, c'est vraiment... tout peut arriver. Là, on reçoit un peu de... on reçoit des productions qui viennent de différentes disciplines. Donc, il y a des personnes en histoire, des personnes en biologie, des personnes en politique, en communication, tu sais, qui vont soumettre des articles. puis après ça, c'est évalué en double aveugle, puis après ça, revu par le comité scientifique. Fait que c'est comme ça qu'on se fraye le chemin jusqu'aux 23 articles qu'on retrouve dans le nouveau numéro.
Adèle, tu voulais ajouter?
Oui, j'avais une question. Quelles sont les thématiques que vous avez couvertes dans le dernier numéro?
Il y en a beaucoup. Donc, il y a des articles, par exemple, qui portent sur les impacts des grands événements sur le climat. Il y en a que c'est sur la notion de limite planétaire. Donc, c'est une notion qui est assez complexe. Puis juste de l'expliquer, c'est complexe en soi. Donc, ça a porté là-dessus. Il y a des numéros sur le rôle des organisations puis les enjeux psychologiques dans les organisations liées à la crise climatique. Il y a un numéro sur les histoires de femmes sinistrées là, face à des inondations. Donc, ça prend des formes très, très variées. Là. Mm-hmm. Vraiment, ça donne une bonne vue d'ensemble puis une vue qui est interdisciplinaire sur les sciences des changements climatiques.
C'est très intéressant ce que vous dites. Généralement, quand vous faites vos recherches, c'est quoi la tranche d'âge que vous visez dans le grand public?
Pour le lectorat, c'est vraiment varié. On vise un peu tout le monde. Donc, évidemment, là, avec la revue, on s'attend à ce que ce soit quand même un public, comme on dit, intéressé, non expert. Fait que ça prend quand même certaines connaissances pour savoir s'y retrouver. Mais dans les activités du climatoscope, on retrouve aussi un nouveau projet qui s'appelle les As du climat, qui est un projet avec le média jeunesse Les As de l'info. Donc, c'est une nouvelle thématique aux As de l'info. Puis ça, on cible les 8 à 12 ans. Donc, donc vraiment, on veut... parce qu'on voit là, chez les jeunes, il y a particulièrement des phénomènes d'éco-anxiété qui émergent, puis on veut offrir des solutions aux jeunes, puis on veut que ces solutions-là soient informées par les sciences des changements climatiques qui sont produites ici, puis qui sont mises de l'avant, notamment par le climatoscope. Donc, je dirais que le public du climatoscope, il est très large. Là, ça part des enfants jusqu'au public académique.
Ça, c'est super à
savoir. Ça va.
Donc, qu'est-ce que je comprends qui a été dit jusqu'à présent, il y a des termes scientifiques qui sont difficiles à expliquer, difficiles à vulgariser aussi. Donc, en matière de révision par les pairs, c'est un rôle qui est crucial dans l'évaluation scientifique, dans le maintien des standards élevés de la rigueur académique. C'est quoi l'importance, en fait, de ce processus pour garantir la qualité des articles publiés pour qu'ils soient compris par un public si général, qui est peut-être moins... à l'affût des grands mots scientifiques.
Mm-hmm. Ben, le processus il est essentiel. Là. Vraiment, premièrement, on brief les personnes évaluatrices qu'on contacte sur les objectifs du climatoscope. Hein. C'est une revue de vulgarisation scientifique, donc il ne faut pas s'attendre que l'information soit amenée de la même façon que dans un article d'une revue savante, si on veut dire, traditionnelle. Donc, à la base, il y a cette espèce de brief-là qui est fait aux personnes évaluatrices. Puis après ça, on a le coordonnateur du climatoscope qui travaille très fort dans l'accompagnement des personnes autrices pour produire des textes qui vont être cohérents avec les objectifs du climatoscope. Donc, d'entrée de jeu, on veut s'assurer que ce qui est produit puis ce qui est soumis aux personnes évaluatrices, ben ça suive déjà cette espèce de ligne éditoriale-là du climatoscope. Mais après, on a cette sensibilité-là, lorsqu'on évalue les textes, d'être très ouvert à des textes plus vulgarisés. Là.
Donc, vous en avez fait mention. Officiellement, le lancement a lieu demain. C'est au Centre des sciences. À quoi on peut s'attendre à cet événement-là de lancement?
Oui, c'est pas au Centre des sciences, au Musée de la Nature.
Musée de la Nature, oui, voyons.
De Sherbrooke, donc sur la rue Frontenac.
Revenons à Sherbrooke.
Au centre-ville. Oui, c'est ça. Nous, on est vraiment à maintenir là, cet enracinement-là dans la communauté sherbrookoise. Donc, c'est demain à 17h30. Vous pouvez aller sur la page Facebook là, du Climatoscope si vous voulez vous inscrire pour la soirée de lancement. Là, ça promet d'être une soirée bien agréable et bien populaire. Là. Il y a déjà à peu près une centaine de personnes inscrites là, pour la soirée de lancement. À quoi on peut s'attendre? Bon, on peut s'attendre à des conférences de personnes autrices. On peut s'attendre à une visite de la nouvelle exposition Objectif Terre du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Puis on peut s'attendre à prendre un verre puis à réseauter. Donc, on peut s'attendre à rencontrer des gens, parler avec des personnes autrices. C'est une soirée qui vise à célébrer là, cette connaissance-là qui est mise de l'avant dans la revue, mais aussi à avoir du plaisir puis à parler à des personnes qui ont des intérêts comme les nôtres, qui sont fascinées par les enjeux là, liés au changement climatique.
Excellent. Puis bon... Tu voulais ajouter, Anaëlle?
Non, je voulais juste dire que c'est sûr que pour le plaisir, on viendra.
Ouais. rapidement, en terminant, qui sont les personnes qui signent les articles? Il y a des professeurs, des étudiants, qui sont-ils
oui,
dans l'ensemble?
Oui, des gens d'organisations environnementales aussi. Surtout, effectivement, là, comme tu viens de le mentionner, des personnes étudiantes, des personnes professeurs, plusieurs personnes qui viennent de l'Université de Sherbrooke, d'autres qui viennent de la France, de l'Afrique. Donc, okay. On reçoit des propositions d'un peu partout dans le monde. Il faut que ça soit issu de la francophonie. Donc, nous, c'est une revue là, en français. C'est assez varié, mais je dirais que en majorité, c'est des personnes de l'univers académique, mais il y a quand même à tous les numéros là, des articles qui ont été publiés par des gens qui travaillent dans des organismes environnementaux puis qui sont particulièrement préoccupés par différentes thématiques ou qui veulent exprimer certains éléments de leurs expériences pour le bénéfice des publics.
Donc, on peut lire la revue, entre autres, sur Internet. Est-ce qu'il y a des copies physiques qu'on peut se procurer?
Oui, la revue, puis ça fait partie aussi de notre mission, elle est gratuite en ligne. Donc, c'est possible d'y avoir accès gratuitement en ligne. Pour les personnes qui aiment garnir leur bibliothèque, ben, on peut aussi se procurer une copie papier au coût de 25 $. C'est possible de la commander en ligne via le site web du Climatoscope. Les commandes, dans le fond, on va coordonner ça avec le lancement de la revue demain. Donc, à partir de demain, ça va être possible de commander. Puis, ça va être aussi possible de les acheter à la boutique du Musée de la nature des sciences de Sherbrooke. Ah. Donc, la revue va être en vente dans les locaux du musée.
Excellent. Donc, c'est à surveiller. Le Climatoscope 6e édition, sorti ce mois-ci, octobre 2024. Olivier Champagne-Poirier, professeur au département de communication de l'Université de Sherbrooke et directeur adjoint de la revue. Merci beaucoup.
Merci à vous autres.
On s'arrête quelques instants et on poursuit le 9 en ce 9 octobre sur les ondes de CFAQ 88.3.